Merci d'écouter Radio France Internationale, 9h à Port-au-Prince et à New York, il est 13h en temps universel.
RFI Midi, Anne Contner.
Nous sommes sur le continent américain pour la dernière partie d'RFI Midi pour parler du début de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York. Il sera beaucoup, beaucoup question d'Haïti cette semaine, de la transition politique, de l'insécurité et de l'avenir de la force multinationale. À suivre aussi durant la prochaine demi-heure notre revue de presse du continent américain et puis l'actualité des Outre-mer. Benoît Ferrand, les coupures de courant commencent à peser sur les particuliers en Guadeloupe.
Oui, la grève est pour l'instant suspendue à l'arrivée d'un responsable national d'EDF. En attendant, frigos et autres climatiseurs rendent l'âme les uns après les autres. Un reportage à suivre.
À tout à l'heure.
RFI Midi.
Et avant de développer tous ces sujets, c'est le journal. Charlotte Sidrac, bonjour.
Bonjour.
Déluge de feu israélien au Liban. L'armée israélienne a mené environ 150 frappes ce lundi sur des cibles du Hezbollah.
Elle avait d'ailleurs appelé les Libanais du Sud à évacuer les zones près des sites du mouvement chiite. Des centaines de familles fuient les bombardements en ce moment. Le ministère de la Santé libanais fait état de 182 morts. C'est le tout dernier bilan encore provisoire. Presque aucune région du Liban n'a été épargnée, Paul Ralifé.
C'est du jamais vu, même pendant la guerre de 2006. L'aviation israélienne s'est déchaînée dès les premières heures du matin sur tout le Liban, à l'exception du nord du pays. Les chasseurs bombardiers ont mené le matin 150 raids dans le sud limitrophe d'Israël et sur des cibles dans le mont Liban et l'anti-Liban, visant des régions jusque-là épargnées. Des dizaines de frappes ont visé le nord de la plaine orientale de la Beka, un fief du Hezbollah près de la frontière avec la Syrie. Après un répit de 2 heures, les raids ont repris en matinée avec autant de violence, surtout dans le sud du pays. 75 localités situées entre la frontière et la ville de Saïda, à 45 km au sud de Beyrouth, ont été pilonnées. Malgré la puissance de feu déployée par l'armée israélienne, le Hezbollah a repris ses tirs vers le nord d'Israël. Des salves massives de roquettes et des escadrons de drones sont partis en fin de matinée de vallées et de collines qui avaient été visées par l'aviation israélienne quelques heures plus tôt. Comme des dizaines de milliers de Libanais, le cabinet du ministre de l'Information a reçu un appel lui enjoignant d'évacuer les bureaux du ministère situés dans le quartier emblématique de Hamra, en plein cœur de Beyrouth. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
Et là, l'armée israélienne indique qu'elle va mener de nouvelles frappes de grande envergure, je cite, dans l'est du Liban. Elle demande aux habitants de la vallée de la Beka de s'éloigner des entrepôts d'armes du Hezbollah. Le premier ministre libanais, lui, dénonce un plan de destruction israélien. Il appelle l'ONU, son assemblée générale et les pays influents à réagir.
Cette assemblée générale, grand rendez-vous diplomatique annuel, s'ouvrira demain.
La situation au Proche-Orient sera l'un des gros dossier à l'ordre du jour. Le conflit en Ukraine aussi, après 2 ans et demi de guerre contre la Russie. Et dans une lettre ouverte adressée au secrétaire général des Nations Unies, une vingtaine d'anciens ministres des Affaires étrangères latino-américains demandent la suspension de la Russie de cette Assemblée générale. Les diplomates rappellent que les mois de juillet et août ont été les plus meurtriers en Ukraine depuis le début de la guerre, en particulier pour les civils, Carlotta Morteo.
Sur les 10 582 civils morts depuis février dernier en Ukraine, 84% ont été tués dans des zones habitées, loin des lignes de front. La preuve d'une stratégie délibérée de la part de la Russie de cibler la population, selon ses ex-ministres des Affaires étrangères latino-américains, qui insistent sur le fait que Moscou est un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et est donc, en tant que tel, c'est son mandat, chargé du maintien de la paix dans le monde. Par cette violation, je cite, monstrueuse de la Charte des Nations Unies et des conventions de Genève, c'est tout l'édifice du droit international qui risque de se transformer en coquille vide, écrivent les signataires. Ils pointent du doigt la responsabilité passée des États-Unis et de ses guerres contre le terrorisme dans le délitement du système, ainsi que le deux poids deux mesures qui mine le droit international quand il s'agit de sanctionner les crimes de guerre à Gaza ou au Soudan, par exemple. Les normes ne doivent pas s'appliquer de manière sélective selon nos préférences géopolitiques, concluent ces anciens diplomates, qui demande la suspension de la Russie de l'Assemblée générale de l'ONU, comme ce fut le cas pour l'Afrique du Sud entre 1974 et la fin de l'apartheid 20 ans plus tard.
Et en amont de cette Assemblée générale de l'ONU, le président ukrainien est déjà arrivé aux États-Unis. Volodymyr Zelensky va présenter son plan pour tenter de sortir de la guerre avec la Russie. Il le présentera cette semaine au président Joe Biden et au candidat à la présidentielle américaine de novembre, Kamala Harris et Donald Trump.
En France, le premier conseil des ministres du gouvernement Barnier.
Réuni en ce moment à l'Élysée, les ministres sont en train d'arriver, réunis autour donc du président Emmanuel Macron. Après la série de passations de pouvoir, les cérémonies se sont enchaînées ce matin. Place Beauvau, le nouveau ministre de l'Intérieur, le républicain conservateur Bruno Retailleau, a été assez clair. Sa priorité, c'est rétablir l'ordre. Il l'a répété 3 fois. Et puis au ministère de la Justice, Éric Dupond-Moretti a laissé les clés à Didier Migaud, seul représentant de la gauche. Reportage Sylvie Coffi.
C'est avec émotion qu'Éric Dupond-Moretti a commencé sa prise de parole. Il s'est dit fier d'avoir pu mener à bien des réformes comme par exemple celle symbolique de la constitutionnalisation de l'IVG. Il a aussi exprimé des regrets comme celui de ne pas avoir pu mener à terme la lutte contre le narcotrafic, mais également une crainte qu'il a clairement exprimée en mettant en garde son successeur.
Il est indispensable, monsieur le garde des Sceaux, que la loi de programmation pour la justice que j'ai portée et qui a été très largement voté par le Parlement en octobre dernier, soit respecté. Je le dis sans ambages, une trahison de cette loi serait un signal dévastateur adressé à tous ceux qui servent notre justice.
Moins vindicatif, Didier Migaud, le nouveau garde des Sceaux, esquisse un sourire. J'arrive avec un regard neuf sur la justice et mes fonctions à la Cour des comptes me serviront. La justice n'est pas qu'une question de moyens, il faut de la volonté. Et avec de la fermeté, cette fois, il ajoute « Ma mission sera de rendre plus lisible et plus transparente la justice ».
Et Michel Barnier, lui, a demandé à ses ministres d'être modestes et irréprochables. Prochaine étape, la déclaration de politique générale du chef du gouvernement, en principe le 1er octobre, et la présentation du très attendu budget 2025 avec l'épée de Damoclès d'une motion de censure de la gauche.
Au Royaume-Uni aussi, le gouvernement prépare le budget.
La nouvelle équipe travailliste a déjà prévenu qu'il y aurait des décisions difficiles après 14 ans de pouvoir conservateur et un gros trou trouvé dans les caisses de l'État. Les travaillistes qui sont réunis depuis hier en congrès et devant les participants, la ministre des Finances a tenté de rassurer Emeline Vint.
Pas de retour à l'austérité, promet la ministre des Finances Rachel Reeves, malgré des décisions difficiles annoncées, comme la fin de l'aide sans condition aux retraités pour l'énergie en hiver. À la place, un mot censé rassurer, investissement.
Nous allons imposer une taxe sur les frais d'inscription en école privée pour investir dans les écoles publiques. C'est le choix juste, le choix responsable, le choix du gouvernement travailliste pour aider les 94% d'enfants qui sont scolarisés dans le public. Et nous étendrons la taxe sur les profits des énergies fossiles pour investir dans une énergie produite ici, en Grande-Bretagne.
La ministre programme aussi une feuille de route industrielle le mois prochain pour relancer la croissance et le recrutement de 5000 agents du fisc pour lutter contre l'évasion fiscale. Devant un parterre de militants qui applaudissent poliment, Rachel Reeves rappelle les coupables, à ses yeux, ses prédécesseurs.
Lors de ma première semaine comme ministre, j'ai découvert l'ampleur de l'irresponsabilité des conservateurs. 22 milliards de livres de dépenses publiques non financées que l'ancien gouvernement n'a pas rendu publiques.
Le gouvernement dévoile enfin une commission d'enquête sur les contrats accordés pendant la pandémie. Mais pas un mot sur les accusations de corruption qui visent ses propres cadres depuis la semaine dernière. Emeline Vint, Londres, RFI.
Et puis retour à bon port pour 2 cosmonautes russes et une astronaute américaine. Ils ont tous atterri à bord d'un vaisseau Soyouz tout à l'heure au Kazakhstan. Les 2 cosmonautes auront passé 374 jours à bord de la Station Spatiale Internationale. C'est un record. 18h09 au Kazakhstan, 13h09 en temps universel. La suite des RFI Midi avec vous, Anne Cantner.
Merci Charlotte Hydrac. La suite est la fin et nous sommes sur le continent américain durant les 20 prochaines minutes.
RFI Midi, Cap-Haïtien, 100.5 FM.
On en parlait avec vous, Charlotte. C'est le début cette semaine de ce que l'on appelle la semaine de haut niveau à l'ONU. Les principaux dirigeants du monde entier se retrouvent à New York pour l'assemblée annuelle de l'organisation. Et l'un des grands dossiers, en plus du Proche-Orient et de l'Ukraine, ce sera la situation en Haïti. Le pays sera au cœur de plusieurs réunions organisées dans les prochains jours. Et les dirigeants de la transition, Michael Ponge, ont multiplié les entretiens ce week-end pour préparer cette semaine cruciale.
Oui, et ils l'ont fait savoir, Anne, sur les réseaux sociaux. Le Premier ministre Gary Conney, qui est à New York avec la ministre des Affaires étrangères, Dominique Dupuis, a rencontré tout ce week-end des représentants de la Banque mondiale, d'anciens collègues de l'Université de Columbia, pour notamment échanger sur les opportunités de collaboration avec les universités haïtiennes. Et puis, Anne, surtout, on l'a vu, Gary Conney, aux côtés de son homologue jamaïcain hier, dont les troupes, la Jamaïque, qui devrait prochainement garnir les rangs de la mission multinationale d'appui à la sécurité. De son côté, Leslie Voltaire, l'un des conseillers présidentiels, parti samedi de Port-au-Prince avec le président kényan William Ruto, qui, je vous le rappelle, a fait un arrêt dans la capitale haïtienne. Leslie Voltaire s'est, lui, affiché en compagnie du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.
Grosse activité à New York pendant que le président du Conseil présidentiel de transition, lui, était à Port-au-Prince.
Un beau cafouillage au plus haut sommet de l'État. Qui donc conduit à New York la délégation haïtienne, s'est-on demandé ce week-end à Port-au-Prince, mais aussi à New York, Leslie Voltaire, Gary Conney ou bien Edgar Leblanc-Fils, vous suivez, qui est donc toujours à Port-au-Prince. On évoque des problèmes de protection par les autorités américaines, qui ne sait plus qui elle doit protéger avec tout ce beau monde. Embrouille à Mini dont seule la politique haïtienne a le secret, mais voilà que tout rentre dans l'ordre hier. Le département d'État américain qui avait refusé, dit-on, notamment du côté du Nouvelliste dans ses pages aujourd'hui, d'accorder la protection diplomatique au président du CPT, finalement s'excuse et rectifie le tir. Vous suivez, ça veut dire que Edgar Leblanc-Fils devrait bientôt rejoindre, en tout cas dès que possible, ceux qui sont sur place à New York. Et c'est lui, Anne, qui devrait s'exprimer jeudi à la tribune de l'Assemblée générale.
Avant cela, Michael, plusieurs réunions sont prévues, avec au centre des préoccupations la mission multinationale d'appui à la sécurité menée par le Kenya et qui manque cruellement d'argent pour fonctionner.
Oui, la semaine prochaine, lundi prochain, le mandat de cette force doit être renouvelé pour un an. Mais dès ce lundi, une réunion à l'initiative du Canada est prévue, une autre jeudi par les États-Unis. Washington qui fait campagne, on le sait, pour transformer cette MMAS en une force onusienne, un coup de pression pour pousser la communauté internationale à sortir le chéquier, car les Américains le savent, une mission onusienne en Haïti, Antonio Guterres n'en veut pas. Les casques bleus ne sont pas formés pour la lutte anti-gang, mais bien pour maintenir la paix, ce qu'il faut de toute urgence, rappelait encore le secrétaire général de l'ONU dans cette émission vendredi dernier. C'est de l'argent frais et très vite.
Michael Ponge, l'insécurité en Haïti, l'instabilité politique, la crise économique ont des conséquences sur l'ensemble des services publics. On en parle régulièrement ici. Conséquences sur les hôpitaux. D'abord au Gonaïves, par exemple. Les centres hospitaliers manquent de sang depuis plusieurs années maintenant, depuis que le poste de transfusion qui desservait tout le département de l'Artibonite ne fonctionne plus. Et les conséquences sont dramatiques. De très nombreux patients qui pourraient être sauvés grâce à une transfusion sont condamnés à mourir si leurs proches ne parviennent pas à trouver là ou les poches de sang nécessaires. C'est bien sur les familles que tout repose aujourd'hui, Ronel Paul.
Il y a quelques semaines, le père adoptif de Jean-André Baron est décédé dans un centre hospitalier de la ville des Gonaïves. Son état de santé nécessitait une transfusion sanguine, mais il était impossible pour ses proches de trouver du sang.
On ne sait pas combien de gens en Haïti qui sont morts dans des circonstances pareilles. Et il fallait faire un comptage ou bien un recensement pour voir combien de gens tous les jours qui sont morts comme ça. Personne n'est à l'abri, c'est un coup, il faut crier haut et fort pour tout le monde, quelle que soit la couche sociale. Parce que quand on est malade, on est parti à l'hôpital, il faut avoir le matériel pour pouvoir donner la santé aux gens.
De fait, l'absence de matériel nécessaire aux transfusions est l'une des causes du décès de l'octogénaire, se désole Maître Jobet Janit. Du même groupe sanguin que le malade, il s'était proposé comme donneur, mais arrivé au centre où le patient était hospitalisé, ce fut la douche froide.
Aucun centre hospitalier au Gonaïves n'est en mesure de faire le prélèvement sanguin ni le conserver. Ils nous ont redirigés vers la Croix-Rouge. Or, la Croix-Rouge au Gonaïves non plus n'a pas de matériel adéquat pour faire le prélèvement. Je m'étais rendu directement au poste de transfusion sanguine de la Croix-Rouge. Franchement, c'était vraiment un casse-tête. Donc, nous sommes les principales victimes. Nous sommes prêts à donner du sang à nos proches, mais il n'y a pas de possibilité pour le prélever et il n'y en a pas non plus de disponible. À la Croix-Rouge, ils nous ont simplement expliqué que l'État central ne fait rien pour les doter de matériel malgré plusieurs demandes.
Dans la majorité des hôpitaux en Haïti, lorsque le cas d'un patient nécessite une transfusion sanguine, c'est aux proches de se débrouiller pour fournir directement le sang à l'hôpital. Il leur faut alors trouver plusieurs donneurs, contacter les centres de transfusion en capacité de faire les prélèvements et se déplacer jusqu'à ce centre. Car en Haïti, pour recevoir du sang, il faut être prêt à en donner, comme l'explique Carty Fene, médecin dans un centre hospitalier public.
Vous êtes obligé de donner du sang pour que le centre vous en fournisse. C'est une réalité parce qu'il n'y a plus personne qui se rend volontairement dans les centres de transfusion pour donner du sang. Mais il y a des exceptions, comme dans les centres de Deschapelles et de Saint-Marc. S'il y en a suffisamment, on peut vous fournir du sang sans que vous n'ayez à en donner suivant l'état du malade ou des relations de la personne qui a fait les démarches. C'était pareil au Gonaïve à l'époque où il y avait encore des postes de transfusion sanguine. Certaines personnes influentes pouvaient en recevoir au détriment d'autres patients.
C'est donc un système qui profite aux plus offrants. Docteur Enoch Savin, directeur départemental de la santé dans l'Artibonite, se plaint de la fragilité de ce système aggravé par l'insécurité et les turbulences politiques à répétition.
Nous n'avons plus comme par le passé un centre de distribution et d'approvisionnement d'intrants. Il a été vandalisé en septembre 2022. Depuis, nous n'avons plus de lieu où sont stockés et mieux conditionnés les intrants. J'ai pu trouver un autre endroit, mais ce n'est que récemment que j'ai pu l'alimenter en électricité pour qu'on ait un peu d'éclairage. Ce problème d'électricité empêchait d'y installer un petit frigo pour y mettre les médicaments sensibles à la chaleur, comme l'oxytocine et autres. On est dans une lutte continue pour la gestion de l'hôpital. La volonté est là, mais les moyens nous manquent.
Donc la volonté est là, mais les moyens...
Hormis l'absence de médicaments, le directeur Savin se plaint également de la fuite du personnel soignant. Par exemple, à l'hôpital La Providence des Gonaïves, l'hôpital de référence du département, sur 21 infirmières, il n'en reste que 5 et sur 10 gynécologues obstétriciens, seulement 3 sont encore présents.
Un dossier signé Ronel Paul. Haïti sera donc l'un des principaux sujets évoqués à New York aux Nations Unies, on le disait tout à l'heure. Mais que peut-on attendre de cette Assemblée générale ? Eh bien, pas grand-chose, selon le président brésilien.
La pandémie, les conflits en Europe et au Oriente Médio, la corrida armamentista et la mudança du climat.
La pandémie, les conflits en Europe et au Proche-Orient, la course aux armements, les changements climatiques démontrent, dit Lula, les limites des instances multilatérales. Voilà ce qu'il a dit lors du sommet de l'avenir à New York. Selon lui, l'Assemblée générale a perdu de sa vitalité et le Conseil économique et social a été vidé de sa substance. Les mots de Lula, largement repris par la presse brésilienne que vous avez lu pour nous, Achim Lippold.
Oui, le site d'information Carta Capital retient de ce bref discours de Lula, surtout sa demande en faveur des réformes pour que le Sud global soit mieux représenté à l'ONU. Pour le journal Estadão, le président brésilien se hisse dans une position de donneur de leçons, notamment dans le domaine environnemental. L'année dernière, rappelle le quotidien, Lula a pointé du doigt les pays riches pour leurs émissions de carbone, mais depuis le début de cette année, les incendies au Brésil ont doublé par rapport à la même période en 2023. Les avertissements n'ont pas manqué. Lula a écrit « Estadão a beaucoup parlé, mais ses mots ne se sont pas traduits en actes. »
RFI Midi. Aux États-Unis aussi, une petite phrase fait la une de la presse, celle de Donald Trump lors d'une interview télévisée hier.
If you're not successful this time, do you see yourself running again in four years?
No, I don't. No, I don't. I think that will be.
Donald Trump était interrogé sur son avenir politique et il a expliqué qu'en cas de défaite le 5 novembre prochain, il ne serait plus candidat à la présidence. Je ne m'y vois pas, je pense que ce sera tout. Voilà ce qu'il a dit. L'équipe de campagne de sa rivale démocrate s'est tout de suite saisie de ces quelques mots. Et la presse, Arim ?
Elle reste dubitative. En tout cas, le journal Mother Jones qui se demande ce matin, est-il vraiment sérieux ? L'avenir, en tout cas, nous le dira, conclut le journal en ligne. Mais il ne faut pas se faire d'illusions, écrit le site d'information, car Donald Trump a récemment laissé entendre qu'il avait effectivement perdu les élections de 2020 avant de se rétracter quelques jours plus tard, expliquant qu'il ne reconnaissait pas cette défaite. Donc voilà, on ne sait pas s'il va se tenir à ses propos.
En tout cas, on n'en est pas là pour l'instant. La course est très serrée. Nous sommes à 6 semaines du scrutin environ. Donald Trump et sa rivale Kamala Harris sont au coude à coude. Légère avantage pour la candidate démocrate, mais vraiment de peu. Et Donald Trump, lui, dans ce contexte, a décidé de durcir encore un peu plus son discours sur l'immigration.
Exactement, c'est à lire dans le New York Times, qui a assisté au dernier meeting de l'ancien président et de son colistier, J.D. Vance. Ce dernier a déclaré ce week-end devant ses sympathisants que des immigrants non seulement étaient en train de prendre le travail des Américains, mais aussi leur maison et celle de leurs enfants. Donald Trump, lui, ne cesse de parler d'invasion lorsqu'il s'agit de l'arrivée de nouveaux migrants, jouant sur la peur et des stéréotypes racistes, écrit le New York Times. Et à l'approche du scrutin de novembre, eh bien, la distinction entre des migrants illégaux et légaux s'efface, note le journal. Pratiquement tous les étrangers sont accusés d'être responsables de multiples maux dont souffre le pays.
La suite de votre revue de presse nous emmène en Bolivie, à Rime. La Bolivie où les tensions entre l'ancien président Evo Morales et son successeur s'accentuent.
Oui, Evo Morales qui a gouverné le pays de 2006 à 2019 et Luis Arce en poste depuis 2020 sont devenus des concurrents farouches pour la direction de leur parti et surtout la candidature à la présidentielle de l'an prochain. Evo Morales a pris la tête d'une marche de plusieurs milliers de ses partisans, une marche qui se dirige vers le siège du gouvernement à La Paz. Leur arrivée est justement prévue ce lundi. Eh bien, le président Luis Arce a mis en garde contre l'éclatement d'une guerre civile et appelé au dialogue. C'est à la une du journal La Razón. Hier, des affrontements entre des partisans et ceux du leader indigène Evo Morales ont fait 8 blessés près de la capitale et selon El Diario, l'intention d'Evo Morales est claire. Il a l'intention de mettre fin au mandat de Luis Arce et pas de manière pacifique. Cette lutte pour le pouvoir définira à la fois l'avenir du gouvernement de Luis Arce et celui de la candidature du parti MAS. Les enjeux sont donc considérables, conclut El Diario.
Arim Lipold, votre revue de presse à retrouver sur internet RFI.fr.
Le journal d'Haïti et des Amériques sur RFI.
Reportage maintenant à Montréal, une très grande ville avec une particularité qu'on n'imaginerait pas forcément, les ruelles vertes. Quand on dit ruelle, souvent on a tendance à penser à un lieu étroit, sombre, pas vraiment propre. Là, c'est très différent. À Montréal, elles sont nombreuses, ces toutes petites rues, et les habitants peuvent faire ce qu'ils veulent, retirer le bitume pour en faire des jardins ou des espaces à partager avec ses voisins, pour y installer des balançoires, des cages de hockey ou encore des hôtels à insectes. Bref, des petits coins paisibles où nous emmène notre correspondant Alexis Gacon.
Alors, même si vous avez l'impression d'être en forêt, on est en plein cœur de Montréal, même dans le centre-ville, au beau milieu d'une ruelle verte. Alors, pour vous situer, les ruelles montréalaises, ce sont des petits chemins d'asphalte qui relient les arrière-cours des immeubles et des maisons entre elles. En fait, c'était la voie d'accès aux domestiques, puis aux livreurs de charbon au 19e siècle. Et puis, depuis toujours, c'est un peu le royaume des enfants à Montréal. Là, par exemple, il y a une petite et sa mère qui me double avec une petite poussette. Et quelqu'un a mis un peu d'ambiance musicale depuis son balcon. Vous entendez, les ruelles, ce sont des lieux à la fois calmes et pleins de vie. Et c'est ce qui a attiré Florence Sarah-G. Ferraris à en faire un livre, Ruelles, pour lequel elle a arpenté les ruelles vertes de Montréal.
Il y a quand même un petit côté voyeur avec la ruelle, qu'elle soit verte ou non. Tu as quand même l'impression de rentrer dans l'intimité des gens, mais tu as le droit. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de... C'est un espace à mi-chemin entre le privé puis le public. C'est une extension, on l'a dit tantôt, c'est une extension de la cuisine, du balcon, de la cour. C'est encore plus vrai dans les ruelles vertes parce que les gens s'étendent, ils étendent leur quotidien finalement jusqu'aux limites de ce qui appartient à tout le monde.
Il faut savoir que pendant une trentaine d'années, les ruelles ont été abandonnées. À partir des années 60, quand il y a eu un exode des familles vers les banlieues, à l'époque, il y a un fonctionnaire montréalais, secrétaire du sous-comité de toponymie, qui écrit dans une note de service que la ruelle est devenue un refuge des voleurs, escale des ivrognes et un lieu d'aisance des noctambules. Mais là, je vous dirais que c'est plus le repère des oiseaux, des écureuils qu'on voit passer dans les érables entre les cordes à linge. Parce qu'entre-temps, eh bien, depuis plus de 20 ans, il y a des ruelles vertes qui se sont développées sous l'impulsion des mairies d'arrondissement. La mairie finance en partie ou toute la transformation, mais ce sont les citoyens qui doivent convaincre leurs voisins, monter le projet et entretenir la ruelle verte ensuite. On rencontre donc Caroline qui a lancé son projet de ruelle derrière chez elle.
Quand tu choisis de faire une ruelle verte, ils nous proposent des ambiances ou style à choisir. Donc, on a choisi des petits arbres fruitiers qui sont là. Donc, ça, c'est vraiment, ça vient attirer beaucoup plus les oiseaux. On a beaucoup plus beaucoup d'oiseaux là depuis. Puis, les voisins, on en profité pour mettre des mangeoires.
Ah oui, un parcours de colibris?
Ouais. Okay. Avec les mangeoires rouges, c'est de l'eau sucrée, c'est très spécifique au colibri.
Pour réaliser ce projet de ruelle, il a fallu convaincre les voisins, comme Maryse, de ne plus circuler en voiture sur le chemin.
Et honnêtement, même si ça peut me frustrer, je regrette pas. Puis au contraire, c'est plaisant.
Il y a aussi une terrasse en bois commune qui est partagée par tous les voisins de la ruelle et qui la traverse. Ils font la fête sur la terrasse à l'occasion, puis ils y projettent des films aussi.
Les gens amènent à manger, puis c'est un repas communautaire. Il y a des artistes qui viennent, de la musique, c'est vraiment, vraiment très beau. Toutes les nappes sont blanches.
Un autre effet bénéfique des ruelles, c'est qu'à l'ombre des érables et des plantes, il fait moins chaud que dans la rue, à quelques mètres.
Ils nous disent que la végétation peut diminuer jusqu'à 5 degrés.
Mm-hmm. Là, on le sent, là, on est bien. Là.
Mais ça va être de plus en plus marqué parce que ça va devenir de plus en plus verdoyant.
Et comme nous, les Montréalais passent désormais par les ruelles pour se rendre au travail ou en métro. Ils ont le choix. Désormais, il y a plus de 400 ruelles vertes à travers la ville. Alexis Gacon, Montréal, RFI.
À Montréal, il est 9h26.
RFI Midi.
Et l'on vous retrouve, Benoît Ferrand, pour l'actualité des Outre-mer françaises. En Guadeloupe, les coupures de courant causées par un mouvement de grève à EDF commencent à faire des dégâts chez les particuliers.
La grève dure depuis maintenant une semaine. Elle a démarré lundi dernier. Elle est pour l'instant suspendue à l'arrivée d'un responsable national d'EDF. En attendant, délestage et autres relestages, si l'on peut dire, ne font pas du bien à l'électroménager du client moyen. Reportage Yanis Eli.
C'est un véritable défilé d'usagers dans les magasins électroménagers. Ils sont en effet plusieurs à venir acheter un nouveau climatiseur, une nouvelle machine à laver, mais surtout des nouveaux réfrigérateurs. C'est le cas de Tatiana. Après une journée au travail, elle a eu la mauvaise surprise de retrouver son frigo en panne, conséquence directe des coupures de courant de ces derniers jours.
Je fais un peu le tour pour voir le prix des réfrigérateurs qui ne faisait pas du tout partie de mon budget. Ce mois-ci, surtout en période, je suis arrivée chez moi, le réfrigérateur ne fonctionnait pas. Donc c'était dû à une suite de coupures d'électricité. Donc c'est un peu embêtant parce qu'après l'assurance ne prend pas en charge parce que cause de coupure. Et là, je vais voir au niveau d'EDF, chose qui sera difficile. Je connais déjà un peu parce que ma mère a eu ce problème avec son climatiseur. Donc, ils n'ont pas pris en charge l'assurance en plus parce que c'est dû à une coupure. Je ne suis pas contre la grève, mais quand même, il y a un minimum de respect envers, peu importe la personne, peu importe les gens, mais ça cause des effets néfastes sur nos appareils.
Au lendemain de la rentrée, certains clients se retrouvent donc à faire des dépenses dont ils se seraient bien passés.
Il s'agit bien évidemment d'une coïncidence alors que les forces de l'ordre ont récemment essuyé des tirs à balles réelles lors des nuits agitées de ces derniers jours à Fort-de-France. Une grande quantité d'armes à feu et d'armes blanches ont été détruites vendredi dernier. Signe, s'il en était besoin, de la gravité du phénomène en Martinique. Pierre-Marc Fergelot est le directeur territorial de la police nationale en Martinique. Il est au micro de Franck Edmond Mariette.
Ça démontre d'une part l'activité des services. Il faut savoir que nous saisissons des armes quotidiennement. Ça démontre aussi l'ampleur du phénomène qu'il faut avoir en permanence à l'esprit et les moyens que nous devons déployer sur ce sujet. C'est un effort de fond, c'est une action qui doit être menée en profondeur et nous mettons les moyens pour essayer d'endiguer ce phénomène qui est extrêmement présent et qui malheureusement cause des dégâts. Nous avons été cible de nombreux tirs et nous avons d'ailleurs des policiers qui ont été blessés à ce sujet. La dangerosité des individus qui commettent ce genre d'exactions est à souligner. Ce phénomène démontre bien que l'utilisation des armes est totalement banalisée et que c'est un phénomène que nous prenons en compte.
Bon après-midi, Anne. À demain.
À demain, Benoît Ferrand. Merci à tous d'avoir été avec nous sur RFI. RFI Midi, c'est terminé pour aujourd'hui. L'émission était réalisée aujourd'hui par Yann Eligouin. Je vous donne rendez-vous demain, 11h, temps universel. Mais vous restez sur notre antenne puisque dans quelques secondes maintenant, vous retrouvez Pascal Paradou pour son émission De Vive Voix. Et cette question ce lundi, que sait-on vraiment de la langue des signes? Voilà, Pascal Paradou y répond avec son invité dans 30 secondes maintenant.
RFI à Cayenne,
98.7 FM.
RFI, la sélection du mois.
Bonbon vaudou. José James et Balodi.
Cette rue n'a pas de nom. Cette ville n'a pas de nom, non, non. Cette région est de poussière, poussière, pays, pays poudrière.
RFI Musique.